Chapitre 11e, l'asile. C'était un magnifique édifice que la basilique de Sainte-Sophie, construite par Constantin avec une richesse inouïe. Les portes étaient en bois de cèdre, où l'ivoire et surtout l'ambre, alors fort rare, s'entremêlaient avec goût. Les murs, en marbre blanc, offraient les incrustations les plus gracieuses en manière d'arabesque. Les dalles de marbre étaient jolies et brillantes comme un miroir. Des colonnes de porphyre, d'albâtre, de bronze vert antique et de granit égyptien de couleur rose supportaient les galeries qui régnaient à la partie basse de la coupole. Des lampes d'argent, en forme d'élégantes nacelles, balançaient leur lumière toujours vive sous la nef hardie et élancée. Des candélabres d'argent, en forme d'arbre, portaient sur leurs branches une forêt de cierges. Devant la grille du jubé qui fermait le chœur s'élevaient 12 colonnes enrichies d'ornements en argent. Entre elles se trouvaient 10 statues d'argent représentant le divin Sauveur, sa Sainte Mère, les 4 évangélistes et les 4 grands prophètes. La table d'autel était faite de pierres fines pilées et amalgamées d'or et de pierres précieuses. Autour du baldaquin d'argent qui surmontait le trône du patriarche, régnait une couronne de lys d'or. Le baldaquin de la chaire portait une couronne d'or pesant 100 livres et garnie de diamants et de perles fines. Telle était cette basilique, l'orgueil de l'empereur et la joie des fidèles, une réunion des chefs-d'œuvre de l'art, la merveille de Constantinople. Mais aujourd'hui personne ne songeait à sa magnificence, bien que l'église fût pleine. Tous les yeux étaient concentrés sur un objet qui contrastait singulièrement avec ce qui l'entourait. Le faussaire de grandeur avait disparu. À demi-mort de frayeur, le malheureux affranchi était là, dans toute sa laideur et sa misère, auprès de l'autel, entourant de ses bras fiévreux une colonne. Sous ses habits dégoûtants de saleté, avec sa physionomie triviale et sa lâcheté servile, il semblait un esclave qui craint un juste châtiment et se sent menacé de la hache et des verges, insigne du consulat, que les lecteurs portaient hier encore devant lui. La foule avait enfin retrouvé sa trace et rempli en peu d'instants la vaste cathédrale de Sainte-Sophie, mais elle ne se soulevait pas. Elle attendait avec anxiété le dénouement. Le droit d'asile avait été aboli par une loi, et le criminel ou l'innocent devait désormais, sur l'ordre de l'empereur, être arraché de l'autel par les prétoriens. Cet ordre leur serait-il donné? La loi nouvelle allait-elle être, pour la première fois, appliquée à celui qui en avait été l'auteur? Qu'est-ce que le patriarche allait dire? Qu'allait-il faire? Cette incertitude retenait la foule dans une fiévreuse attente. Bientôt le cliquetis des armes et le bruit des pas militaires retentit dans la cour. Les prétoriens venaient donc réellement. Ils s'approchèrent. Ils passèrent le seuil du lieu saint et pénétrèrent jusqu'au milieu de l'église. Ils s'ouvrirent brusquement passage à travers la foule compacte qui semblait décidée à se laisser écraser plutôt qu'à lâcher pied et à manquer ce spectacle. Les soldats marchèrent droit à leur proie en frappant les dalles de leurs lances pour se faire de la place. Eutrope fixait ses yeux hagards sur ce serpent d'airain qui se roulait lentement de son côté et dont les yeux furieux lui annonçaient la mort. Il tenait la colonne de l'autel étroitement embrassée, comme le naufragé s'accroche à la planche sur laquelle il flotte au-dessus des profondeurs insondables de l'océan. Tous les nerfs de son corps tremblaient. Les battements violents de son cœur inondaient son front d'une sueur glaciale et fermaient le passage à son haleine. De temps en temps, un son rauque et étranglé s'échappait sourdement de sa gorge oppressée, et ses traits palpitaient convulsivement. C'était un spectacle horrible, mais personne n'était ému de compassion. Tout le monde attendait avec une égale curiosité l'issue de cette scène dramatique. Tout d'un coup, un mouvement se produisit aux abords de la sacristie. « Le voilà » murmura-t-on. « Il vient. C'est lui, le patriarche. Place pour lui. Bouche d'or va parler. » La foule s'arrangea pour le laisser passer. Cela amena du retard dans la marche des prétoriens, qui restèrent comme frappés d'immobilité pendant que le patriarche montait les degrés de la chaire. Malgré sa petite taille, son apparence chétive, sa figure pâle et maladive, véritable portrait de la débilité physique, il se montra à tous les yeux pleins de courage, comme celui qui n'ayant rien à se reprocher n'a rien à craindre, plein d'ascendant et d'empire, comme celui qui va défendre un droit sacré. D'une voix forte et retentissante, il ordonna aux soldats de rebrousser chemin et à la multitude de s'éloigner. Aucune violence, aucune curiosité brutale ne devait souiller le saint lieu. La miséricorde de Dieu devait l'emporter sur une loi qui n'avait pas encore été mise en vigueur et qui ne devait pas l'être non plus dans la circonstance présente. Les prétoriens tournèrent les talons avec autant de docilité que si Chrysostome avait été leur chef militaire. Le peuple, partagé entre l'adhésion et le mécontentement, s'écoula peu à peu et porta au dehors ses émotions inassouvies et son attente déçue. Ce changement subi et inespéré dans sa situation critique laissa Eutrope tout étourdi et sans force. Il chancela et tomba sans connaissance. Le patriarche le fit porter dans une chambre qui dépendait de la sacristie. On lui donna du vin pour le ranimer. Ce n'est pas le sang des martyrs qui coule dans ses veines, dit un jeune acolyte qui lui prêtait assistance. Il n'a pas non plus à défendre la cause des martyrs, répondit un diacre. L'égoïsme rend lâche dans le danger, parce qu'il s'appuie sur le faible moi. L'amour de Dieu donne du courage aux fidèles. Il connaît son soutien et son défenseur. Qu'il était beau de voir notre saint patriarche, sans autre arme que sa parole, défendre cette pauvre vieille créature, traquée, pourchassée, contre ses ennemis acharnés à sa perte, apparition vraiment divine et consolante. Oh oui, consolante. Je pensais involontairement à ma pauvre âme, au moment où elle devra comparaître devant son juge suprême, alors que le diable l'accusera, et que son ange gardien s'efforcera de la protéger. Et j'ai fait une prière du fond du cœur pour que ma conscience soit, à cette heure solennelle, en meilleur état que celle de ce malheureux. Dominés par l'autorité et le charme de la parole de Chrysostome, les prétoriens et le peuple avaient quitté l'église. Les soldats étaient retournés en toute hâte au palais, et la foule forma des groupes çà et là dans lesquels, à côté du respect et de l'admiration pour le patriarche, on marquait une haine implacable contre le favori tombé. À peine Chrysostome était-il entré dans son palais, qu'un courrier de l'empereur lui apporta l'ordre de se rendre à l'Hebdomon. Cette nouvelle se répandit aussitôt dans la ville et fut amplifiée. Quand Chrysostome parut sur la grande place qui se trouvait devant Sainte-Sophie et son propre palais, le peuple l'entoura et lui adressa ses doléances. « Vous allez être puni, mon père. C'est vous qui portez la peine au lieu de ce vaurien. Votre sainteté se sacrifie inutilement pour lui. Nous vous vengerons. Nous nous vengerons. Livrez-le à la juste colère de l'empereur et sauvez-vous. » Chrysostome chercha à calmer l'irritation et les plaintes par des paroles rassurantes et par des prières. Il se rendit en hâte auprès de l'empereur qu'il trouva fort agité, parce que Gainas l'avait menacé d'un soulèvement général de l'armée si Eutrope s'échappait. « Saint-Père, lui dit Arcadius, vous protégez le coupable au péril de mon trône, cela est-il permis ?»« L'Église, répondit le patriarche avec douceur et avec calme, ne protège le malheureux que contre l'aveugle fureur de ses ennemis altérés de son sang. Et cela ne pourra que consolider votre trône, au lieu de l'ébranler, ô magnanime empereur. Vous savez que le droit de protection n'existe plus. Pardonnez, sire, si je pense que ce droit de protection est tellement inhérent à sa constitution qu'elle ne peut le perdre. Un édit impérial le lui a enlevé, et je ne crois pas que votre sainteté s'imagine qu'elle est autorisée à transgresser les lois. Cette loi a été conçue et proposée par celui-là même qui en doit aujourd'hui subir l'application, ô magnanime empereur. Des passions méprisables l'y avaient amené. Il voulait fermer ce port de salut à une infortune plus noble que n'est la sienne. Quand cette loi fut promulguée, le sentiment public a poussé un cri d'indignation, et jusqu'à présent elle n'a jamais été appliquée. Le respect qui est dû à l'Église défend. « Mais elle existe, elle est en vigueur, elle est ma sanction !» s'écria Arcadius. « Et votre sainteté doit aussi se soumettre à la loi. Certainement, ô magnanime empereur, à condition que ce ne soit pas contre ma conscience, qui doit obéir à des ordres supérieurs. Je ne dois pas laisser s'amoindrir les droits sacrés de l'Église. Être un lieu de miséricorde, c'est son droit propre et imprescriptible. Elle l'a reçu à jamais de son divin fondateur. Une pécheresse a embrassé ses pieds, elle a pleuré, elle s'est relevée, c'était une sainte. C'est un cas particulier, très digne père. Oui, c'est un cas que les siècles chrétiens célèbrent hautement et qui sert à jamais de règle et de mesure dans l'Église. Et qui sait ce qui se passe dans le secret des cœurs? L'Église veut, elle doit, chercher à sauver, sinon la vie du corps, au moins l'âme immortelle. Mais si le coupable est saisi et tué, dans la fureur du moment, alors que tout hors de lui il cherche un lieu de refuge, il périt corps et âme, et ses ennemis s'abandonnent aux fautes les plus graves. Voilà ce que l'Église cherche à prévenir, c'est son devoir. Votre piété lui en fera-t-elle un reproche? Me fera-t-elle un crime d'exercer les droits les plus saints de l'Église? En ce moment, il est vrai, nous n'avons sous les yeux qu'un criminel. Mais pensez aux innocents, sire. songeait qu'une dame, comme Pentadia, aurait pu être arrachée de l'hôtel, exilée en Libye, pour y endurer avec son mari Dieu sait quel tourment, pour y languir, y dépérir, y mourir enfin. Et cela serait arrivé si le droit d'asile eût été aboli. Un cas semblable ne pourrait-il se présenter 100 fois? Et ne devez-vous pas remercier Dieu que l'Église impose à la passion humaine, toujours prompte à s'assouvir avec la loi comme sans la loi, un frein salutaire qui ne nuit pas à la justice, mais seulement à l'injustice? Il n'est point question de la vie d'Eutrope, Saint-Père, répondit Arcadius, adouci. Il doit seulement être banni. Il doit être mis seulement dans l'impossibilité de nuire. Répondez-vous de vos prétoriens, ô généreux empereur, de Gainas, l'ennemi mortel d'Eutrope, de la populace soulevée contre lui. Donnez à l'orage le temps de se calmer. Donnez à Eutrope le temps de se soumettre à la main de Dieu qui le châtie. En agissant ainsi, vous ne ferez que ce qui est bien et juste. Enfin, vous devez vouloir ce que Dieu veut. Il ne veut pas la mort du pécheur, il veut qu'il se convertisse et qu'il vive. Votre sainteté sait que je ne suis pas cruel, que je veux du bien aux hommes, répondit Arcadius. Mais Gainas assure qu'Eutrope doit tomber, et les prétoriens le demandent. La justice demande son éloignement, dit le patriarche. Vous satisferez à la justice en bannissant Eutrope. Mais vous ne devez aucune satisfaction semblable à Gainas et à sa haine, non plus qu'aux prétoriens et à leur cruauté, à leurs instances, à leurs réclamations, opposez votre douceur, votre sagesse, votre dignité, et ils se tairont. Ils n'oseront pas poursuivre leur dessein, si vous leur montrez, ô magnanime empereur, que votre résolution est déjà prise. Votre sainteté a raison. C'est ce que je veux faire, s'écria Arcadius. Il faut qu'on sache que je suis le maître. Mais priez pour moi, très digne père, afin que je trouve des paroles capables de dompter cette troupe sauvage. Et soyez assurés que la loi contre le droit d'asile de l'Église sera abrogée. Vous m'avez convaincu que ce droit est nécessaire contre la violence et l'abus de la force, et je vous en remercie. Avec les témoignages de respect et d'affection d'un bon fils, Arcadius congédia le patriarche qui retourna, en rendant grâce à Dieu, auprès de ceux qui l'avaient accompagné jusqu'au palais et qui l'attendaient avec une impatience voisine de l'inquiétude. Il craignait plus pour lui la fureur des prétoriens que le mauvais vouloir de l'empereur. Quand il parut au milieu d'eux, ils l'accueillirent avec de vives démonstrations de joie. « Votre doux sourire nous présage un heureux résultat, Saint-Père, » dit Sérapion d'un air content. « Priez pour l'empereur, » dit Chrysostome. « Il rend à l'Église le droit d'asile et laisse la vie à Eutrope. » Votre sainteté rappelle involontairement le fabuleux Orphée, » s'écria le diacre Isidore tout transporté. Aux accents de sa lyre, les bêtes féroces des forêts dépouillaient toute cruauté, et les pierres s'élevaient d'elles-mêmes en forme de murailles. Votre parole a arrêté les prétoriens dans Sainte-Sophie, et aujourd'hui dans l'Hebdomon, elle donne de la volonté et de l'énergie à l'empereur. « Rendez-en gloire à Dieu, mon fils, et priez pour l'empereur, » répondit Chrysostome. Il reprit avec ses compagnons la route de son palais, dont les portes étaient assiégées d'une foule impatiente de le revoir. Quand il reparut, il fut salué par les acclamations les plus enthousiastes. La sainteté de sa vie, sa commisération pour toutes les souffrances, son amour pour les pauvres, le zèle ardent de ses prédications, la vigilance avec laquelle il surveillait son clergé et le maintenait dans la vocation apostolique, toutes ces qualités le rendaient l'idole du peuple et le modèle de la perfection pour ceux qui avaient à cœur de mener une vie chrétienne. L'homme est ainsi fait, il cherche une autorité pour sa conduite, même dans les choses tout extérieures et mondaines, et il la cherche dans une région qui, même dans le sens mondain, est au-dessus de lui, parce qu'il y suppose plus d'intelligence. Tous les esprits qui se mouvaient dans le large courant du monde tournaient les yeux du côté d'Arcadius et de sa cour. Ceux qui cherchaient à s'y soustraire les élevaient sur Chrysostome et considéraient son exemple. Et l'homme vulgaire, qui a moins d'être de l'infime populace, a le cœur bien placé, sentait avec raison que le patriarche était pour lui un meilleur père que l'empereur. Au contraire, la plèbe, la ville populace, était hostile à Chrysostome, comme le vice l'est à la vertu, comme la bassesse à la grandeur, et dans ce parti haineux se trouvaient des prêtres et des moines. Le siècle de Constantin, en christianisant le pouvoir, avait précipité du trône le paganisme. Ce fut le commencement d'un nouvel ordre de choses, de nouvelles considérations, de nouveaux principes qui ne purent toutefois empêcher que le christianisme ne fût souvent qu'une larve pour le paganisme. Au bout d'une génération apparurent l'empereur Julien l'Apostat et l'empereur Balens, le terrible Arien, et leurs persécutions eurent l'effet qui se produit toujours en pareilles circonstances. Les fidèles se sanctifièrent de plus en plus, les incrédules et les indifférents abandonnèrent le christianisme, se firent païens, se firent ariens, comme ils s'étaient fait chrétiens, à l'exemple du souverain. Le siècle de Théodose vit le christianisme remonter sur le trône avec plus d'éclat et de pompe, et aussitôt les courtisans et les flatteurs de courir à l'église. Ils devinrent chrétiens de nom, la plupart n'étant baptisés qu'à un âge avancé. Mais au fond du cœur, ils restèrent païens, sinon assez pour adorer les vieilles idoles, assez du moins pour sacrifier aux idoles de leur propre passion. Par conséquent, ils suivaient peu les pures et saintes maximes du christianisme. Tel avait été le prédécesseur de Chrysostome, le sénateur Nectarius, que Théodose éleva au siège patriarcal et qui fut fort loin d'entretenir parmi son clergé cette sainte discipline que Chrysostome pratiqua sévèrement lui-même depuis qu'il avait quitté le barreau, discipline qu'il trouvait indispensable pour le prêtre qui doit mettre le monde sous les pieds. Il avait aussi des ennemis parmi ceux qui auraient dû être ses plus fidèles disciples. Il haïssait sa lumière qui éclairait et dévoilait leur conduite ténébreuse. En ce moment, il s'en trouvait quelques-uns dans la foule assemblée devant son palais. Ce n'était pas l'intérêt sympathique qui les y avait amenés. Ils étaient là en espions, cherchant malignement à lui nuire, espérant, dans leur méchanceté, trouver sa vertu en défaut. « Dieu soit loué, vous voilà de retour !» s'écria le peuple en entourant le patriarche. « Que Dieu bénisse votre sainteté, qu'il comble de joie votre âme bénie !»« Remerciez Dieu et notre magnanime empereur !» dit Chrysostome en passant la porte. « La loi contre le droit d'asile est abrogée !» Un cri de joie accueillit cette nouvelle. Sous l'aile de l'église, chacun se sentait en sûreté. « Peut-être sera-t-il lui-même un jour réduit à ce refuge ?» dit Florus à Eugénius. « Si la haine s'attaque à lui, cela ne manquera pas !» répondit ce dernier. C'étaient deux prêtres qui maudissaient la sainte sévérité du patriarche parce qu'elle les atteignait sans les convertir.